Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ésaïe, chapitre 40. Alors que nous préparons nos cœurs pour que cette période de Noël soit la plus significative, je veux que nous nous concentrions sur cette phrase, au verset 5. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Maintenant, si vous me connaissez bien, vous savez que la gloire de Dieu et la gloire du Seigneur sont un thème extrêmement important et urgent dans mon propre ministère d'enseignement. J'en parle souvent, car la Bible en parle souvent. Et vous pourriez penser que nous avons peut-être forcé ce thème très populaire sur la question de Noël. Mais ce n'est pas du tout le cas, car la parole d'Ésaïe, au chapitre 40, verset 5, dit « Alors la gloire de l'Éternel sera révélée » est en fait l'histoire de Noël. C'est le message de Noël. La naissance de Christ était la révélation de la gloire du Seigneur, comme l'avait promis Ésaïe. Tout le concept de la gloire du Seigneur entoure la scène de Noël. À la naissance du Christ, la Bible dit que les anges exigeaient une telle attention, alors qu'ils criaient « Gloire à Dieu au plus haut des cieux !» Dans Luc 2:9, les bergers, en rencontrant l'ange, ont immédiatement compris que la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ainsi, la gloire du Seigneur était la concentration angélique à la naissance du Christ. La gloire du Seigneur était l'aura qui envahit la scène. Cela n'est pas imposé dans l'histoire de Noël. C'est l'histoire de Noël. Maintenant, regardez avec moi un instant le 40e chapitre d'Ésaïe. Laissez-moi juste vous donner un bref aperçu pour que vous sachiez l'importance de ces mots. Le livre d'Ésaïe se divise en trois parties. Les 35 premiers chapitres sont des chapitres de malheurs sombres et de jugements. Les chapitres où Dieu parle avec des mots de colère, de vengeance, de condamnation et de jugement. Non seulement sur son peuple Israël, mais aussi sur les autres nations. Ici et là, la tristesse et les ténèbres sont percées d'une lumière de miséricorde et d'une lueur de grâce, car le jugement de Dieu est toujours tempéré par son amour. Mais en gros, il y a 35 chapitres de jugement absolu. La deuxième section se trouve dans les chapitres 36 à 39. Cette petite section au centre est vraiment le cœur de la prophétie. C'est le cadre historique en Israël qui a suscité le message du livre. Dans ces chapitres, le prophète décrit la situation, les affaires de son temps et pourquoi Dieu doit porter un jugement. Donc, en réalité, bien qu'ils soient distincts, parce qu'ils sont historiques, ils correspondent au thème des 35 premiers chapitres. Et nous pouvons dire que pour les 39 chapitres, vous avez un message de jugement dans Ésaïe. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Heureusement, cela ne s'est pas terminé là. Pour le peuple de Dieu, il y aura un autre jour, et les chapitres 40 à 66 l'ont présenté. C'est la section sur le salut. Et dans cette section, le Messie est introduit, le serviteur souffrant d'Ésaïe 53. Regardez comment le passage commence, au verset 1 du chapitre 40. Après 39 chapitres sur le jugement, vous lisez ceci. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. C'est un message de réconfort, disant que le salut est à venir, que l'iniquité est pardonnée, que le châtiment est terminé. C'est le message d'espoir. C'est un message de gloire. C'est l'aube d'un jour nouveau. C'est la lumière au bout du tunnel, l'étoile du matin qui signale la fin de la noirceur de la nuit. Le salut arrive. » Avec ce thème, nous passons au verset 3, et le prophète nous emmène plus loin, dans l'arrivée de ce nouveau jour. Il commence par « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et quand vous arrivez au Nouveau Testament, et que vous lisez le troisième chapitre de Matthieu, et le troisième verset, vous trouvez que c'est une prophétie accomplie par Jean-Baptiste. Le réconfort, le pardon, le salut, l'aube d'un nouveau jour, sont introduits par cet homme qui pleurait dans le désert, Jean-Baptiste. Il ne préparait pas une route physique, mais une route dans le cœur des hommes, une entrée dans le cœur des hommes. Chaque vallée exaltée, chaque montagne et chaque colline abaissée. Le tortueux devenait droit, et les endroits rudes devenaient clairs. Il faisait les choses dans la vie et dans le cœur des hommes, pour l'arrivée de leur sauveur. C'était son ministère. Et il a fait ces choses en prêchant la repentance, la confession du péché, et le baptême qui parlait d'un cœur lavé. Et ainsi est venu Jean-Baptiste proclamant l'arrivée du salut. Alors au verset 5, suivant Jean le Baptiste. Alors la gloire du Seigneur sera révélée, et finalement, dans le dernier éclat de la gloire, toute chair la verra. Et c'est vrai, parce que la bouche de l'Éternel a parlé. Et le verset 8 dit, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Si Dieu le dit, cela règle tout. Il y a un jour de salut. Jean-Baptiste le présentera. Il préparera les cœurs des hommes, lissant les endroits difficiles. Et alors, la gloire du Seigneur sera révélée. Et alors le prophète, sans voir l'âge de l'Église, va directement jusqu'au bout de la gloire du royaume flamboyant, quand toute la chair la verra. Mais concentrons-nous, si possible, sur la première partie du verset 5. Alors la gloire du Seigneur sera révélée. Qu'est-ce que cela signifie? Quel genre de nom est-ce? Quel genre de titre est-ce? Quel genre de pensée est-ce? Quelle est la vérité liée dans le message de l'Esprit de Dieu ici? Permettez-moi de vous donner tout d'abord ceci. La gloire du Seigneur est l'expression de la personne de Dieu. Toute manifestation du caractère de Dieu, toute manifestation de ses attributs dans le monde, dans l'univers, c'est sa gloire. En d'autres termes, la gloire est à Dieu ce que la luminosité est au soleil. La gloire est à Dieu ce qu'est mouillé pour l'eau. La gloire est ce que la chaleur est au feu. En d'autres termes, c'est l'émanation, c'est le rayonnement, c'est l'éclat, c'est le produit de sa présence. C'est la révélation de lui-même. Chaque fois que Dieu se révèle, c'est la manifestation de sa gloire. Cela fait vraiment référence à sa présence. Maintenant, nous savons que tout ce qui existe dans l'univers est une manifestation de la gloire de Dieu, car toutes choses ont été faites par lui, et tout ce qui existe est donc quelque peu le résultat de sa nature. Donc cela projette sa personne. Les cieux déclarent la gloire de Dieu. La bête des champs lui donne la gloire. Tout ce qu'il a fait parle de sa nature, de son essence, de sorte que toutes les choses créées et toutes les choses existantes sont des révélations de la gloire de Dieu. Ce sont des révélations de sa personne. Vous voyez sa gloire dans la plus petite fleur. Vous voyez sa gloire dans le papillon. Vous voyez sa gloire dans un arbre. Vous voyez sa gloire dans le ciel. Vous voyez sa gloire en tout. Tous sont des points de référence à sa nature. Maintenant, Moïse, ayant vu tout cela, a voulu plus. Dans Exode 33, il dit à Dieu, « Montre-moi ta gloire. » Ce n'était pas comme s'il ne l'avait jamais vue. C'était comme s'il voulait en voir plus. Et Dieu lui dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Il se place derrière un rocher et révèle une partie de sa gloire. Et il y a des moments où, au-delà de la révélation générale de sa création, au-delà de sa gloire manifeste, dans ce que nous voyons dans la nature, Dieu a donné des révélations très spéciales de sa gloire, ce jour-là, d'abord à Moïse, puis plus tard, au peuple, alors qu'il descendait de la montagne et avait la gloire de Dieu émanant de son visage. Dieu a donné des manifestations spéciales de gloire. Dans le jardin, par exemple, Adam et Ève ont marché et parlé avec Dieu dans la fraîcheur du jour. Sa présence était là dans un nuage de lumière ineffable et émanant. Et ils ont vu sa gloire. Au Lévitique, chapitre 9 et au verset 6, Moïse a dit aux personnes que la gloire du Seigneur allait leur apparaître, et elle l'a fait. Quand ils étaient dans le désert, dans Exode, chapitre 16, Dieu les nourrissait de manne, et comme la manne venait et leur était fournie, la Bible dit que la gloire du Seigneur a été vue. Au mont Sinaï, quand Moïse monta pour communier avec Dieu, la gloire du Seigneur couvrit la montagne, et couvrit Moïse. de sorte que le peuple ne pouvait plus voir. Exode 24-15. Nous trouvons que dans Exode, chapitre 40, à la fin de la construction du tabernacle, la gloire du Seigneur remplissait la tente d'assignation, et dans Lévitique, chapitre 9, quand la prêtrise a été initiée et que le ministère sacerdotal a été défini et a été d'abord mis à part pour Dieu. À cette initiation même de la prêtrise, la gloire du Seigneur a été vue. Dans Nombre 14, verset 10, lorsque le peuple avait atteint Kadesh Barnea, au lieu d'entrer par la foi dans la terre promise, ils ont commencé à murmurer, à se plaindre et à se rebeller. La Bible dit que la gloire du Seigneur est apparue. Plus tard, après que Dieu eut établi la prêtrise, il y avait trois hommes, Corée, Dathan et Abiram, qui décidèrent qu'ils assumeraient la fonction sacerdotale. Dans Nombre 16, verset 19, il est dit que la gloire du Seigneur est apparue. Dans le même chapitre, plus tard, lorsque le peuple s'est rebellé contre Moïse et Aaron, la gloire du Seigneur s'est manifestée, et il a déclaré qu'elle menaçait de les consommer en un instant, dans leurs errances dans le désert, selon le 20e chapitre de Nombre. Ils eurent soif, à Mériba, et au milieu de leur breuvage, Moïse et Aaron se prosternèrent devant le Seigneur pour prier pour eux, et la gloire du Seigneur était là. Dans 1 Roi 8-11, il est dit que lorsqu'ils ont terminé le temple, la gloire du Seigneur est venue et l'a remplie. Quand ils ont offert la première offrande, 2 Chroniques chapitre 7 verset 1, la gloire du Seigneur a été vue et le peuple est tombé et a adoré. Donc vous voyez, non seulement Dieu a révélé sa gloire dans la création, mais Dieu a révélé sa gloire de manière très spéciale, dans l'ineffable Shekinah. Maintenant, je vous l'accorde en lisant ces choses, encore et encore, que toutes les apparences de la gloire de Dieu ont à leur sujet une certaine quantité de mystère. Quel que soit le nombre de fois que vous le parcourrez, et combien de fois vous y réfléchissez, il y a un lien entre la gloire de Dieu et un certain mystère merveilleux, un nuage, une colonne de feu, une lumière ardente. C'est très difficile pour nous de comprendre à quoi cela devait ressembler. Il n'y a qu'un seul endroit où nous pouvons aller dans l'Ancien Testament pour en obtenir une description. C'est dans le premier chapitre d'Ézéchiel. Voulez-vous regarder cela avec moi un moment? Ézéchiel, chapitre 1. Ézéchiel, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous donne la seule description de ce que c'était que de voir la Shekinah. Et juste pour vous donner une idée de ce qu'il dit, laissez-moi parcourir ce texte. Écoutez Ézéchiel 1, verset 4. Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait quatre faces, et chacun d'eux avait quatre ailes. En passant, je pense que cela indique une présence angélique de la Shekinah. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes, à leurs quatre côtés, et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant lui. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et deux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Ils jetaient une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs, et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Avez-vous saisi? Est-ce clair? Je vais lire plus. Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. C'est une pierre précieuse, et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient telles que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes. et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Franchement, cela ne va pas en s'arrangeant. Cela continue juste comme cela, et ainsi de suite. Vous arrivez au verset 26. Au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus, en haut. Je vis encore comme de l'air impoli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante, dont il était environné. Arrêtez-vous ici. Vous dites, « Au secours, MacArthur, aidez-nous. Cela fait longtemps que nous sommes perdus. Écoutez, les personnes me demandent depuis des années, qu'est-ce que tout cela signifie? Je vous le dis très simplement. Je n'en ai pas la moindre idée, et je pense que c'est le but. Ézéchiel a vraiment fait de son mieux, mais il essayait de décrire l'indescriptible. Comme un homme l'a dit, il essayait de décrire l'indescriptible. Il essayait de nous dire quelque chose d'impossible à communiquer. Il a vu la gloire du Seigneur. C'est ce qu'il dit au verset 28, au milieu du verset. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Je veux dire que je vous ai donné la meilleure image, mais je ne peux pas vous en donner plus. C'est trop mystérieux. C'est trop difficile à décrire. Au mieux, il a fait un bon effort. Il a vu la gloire du Seigneur plus tard dans le chapitre 3. Il a vu la gloire du Seigneur encore plus tard dans le chapitre 8, le chapitre 9, le chapitre 10. Il l'a vu, et pourtant, il y avait toujours ce mystère incroyable. Maintenant le jour vient, dit le prophète Habacuc, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Mais jusqu'à ce jour de pleine connaissance, nous avons affaire à une perception limitée. Nous ne comprenons pas vraiment. Ézéchiel pouvait et ne pouvait pas le décrire. Et plus il continuait, plus il s'en mêlait. La création a révélé la gloire de Dieu, et au-delà, la Shekhinah, ses apparitions de gloire très spéciales, a révélé sa gloire. Mais même avec celle-là, il y a du mystère. Il y avait du mystère. Si tout ce que nous avions était ces récits, notre compréhension de la gloire de Dieu serait entourée de confusion. Et pourtant, Dieu veut que nous le connaissions. Il veut que nous le percevions, et il veut que nous comprenions sa propre révélation. Comment pouvons-nous savoir si c'est tout ce que nous avons? Heureusement, Ésaïe arrive et il dit ceci. La gloire du Seigneur sera quoi? Révélée. Il y aura une grande révélation, une révélation plus complète. Voyons comment le Nouveau Testament parle de son accomplissement. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1 est un autre texte qui traite de la véritable histoire de Noël. La véritable histoire de Noël. Verset 1 d'Hébreux 1. Dieu, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Et vous pouvez vous arrêter là. Dieu a parlé. C'est le sujet et le verbe. Dieu a parlé. C'est la révélation de Dieu. Il l'a fait à différents moments et de différentes manières. C'est ce que signifient ces deux termes. À différents moments et de différentes manières. Dieu s'est révélé. Principalement, maintenant notez-le, au Père, c'est-à-dire aux ancêtres historiques de la nation d'Israël, les hommes pieux du passé. Il a parlé par les prophètes. Maintenant réfléchissez avec moi. Rassemblons ce que nous avons appris jusqu'à présent. Dieu n'est pas resté silencieux. Dieu n'est pas resté invisible. Dieu ne s'est pas laissé envelopper dans les nuages des ténèbres, mais il a fait briller la lumière de la gloire. Tout d'abord, il a fait briller la lumière de la gloire dans la création. Et puis, il a fait briller la lumière de la gloire dans la Shekhinah. Ces manières très spéciales par lesquelles il a envahi la vie des personnes de l'Ancien Testament. Mais le plus merveilleux, le plus concluant et le plus utile, il s'est révélé au-delà de sa création et au-delà de sa Shekhinah dans la parole de Dieu révélée aux prophètes, de sorte que la plus grande révélation dans le temps n'est pas la compréhension de la création, c'est la compréhension de l'Ancien Testament, car c'est la parole prononcée par les prophètes. Il est dit au verset 7 d'Amos 3, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il s'est révélé à travers les prophètes, dans les écrits de l'Ancien Testament. Maintenant, écoutez, la création et la Shekhinah sont limitées. Le mot écrit donne du contenu à la création. Il donne du contenu à la Shekhinah. Nous pourrions même emprunter les mots de Job. Quand Job contemple le Dieu qui se révèle dans la création, il dit ceci, Job 26, 14. Ce sont là les bords de ses voix. C'est le bruit léger qui nous en parvient. Mais qui entendra le tonnerre de sa puissance? Vous voyez, Dieu murmure seulement à sa création. Dieu ne fait que murmurer à sa Shekhinah. Mais il parle dans sa parole et dans l'Ancien Testament. Au verset 1, il a parlé, pas un murmure, mais de vive voix. Mais vous savez quoi? Même cela était plein de mystères. Le saviez-vous? Je doute que l'Ancien Testament n'ait jamais eu un homme plus pieux que Daniel. Il savait vraiment ce que c'était que de prier. Il savait ce que c'était de marcher avec Dieu. Il savait ce que c'était que de vivre une vie d'obéissance. Il avait un sens de l'histoire. Il a vécu plus de 90 ans, et il a vu Dieu travailler pendant toutes ces années. Il avait des révélations de Dieu qui n'étaient égalées par personne d'autre. Il a vu l'avenir comme personne dans l'Ancien Testament ne l'a vu. Un homme incroyable. Compte tenu de tout ce qui lui a été donné dans sa relation personnelle avec Dieu, compte tenu de tous ces facteurs, à la fin de Daniel, au chapitre 12, verset 8, il dit ceci, « J'entendis, mais je ne compris pas. » Tu n'as pas compris, Daniel? Vous n'avez pas compris? Non, vous voyez, c'est comme cela. Si tout ce que vous aviez, c'était la création, vous auriez un murmure. Si tout ce que vous aviez, c'était la Shekhinah, vous auriez encore un murmure. Si vous aviez l'Ancien Testament, vous auriez Dieu qui parle de vive voix, mais même là, il y aurait un mystère. C'est pourquoi 1 Pierre 1, 10 à 12, dit que les prophètes de l'Ancien Testament ont fouillé ce qu'ils ont écrit pour voir de quelle personne il s'agissait ou de quel temps il parlait, mais cela ne leur a pas été révélé, dit Pierre, mais à nous. C'est pourquoi dans Hébreux 11, 39 et 40, il est dit qu'il n'était pas parfait sans nous. L'achèvement n'est pas venu jusqu'à la meilleure chose, qui est la nouvelle alliance. Donc, avec tout ce qu'ils avaient, il y avait encore du mystère. La plénitude manquait toujours. Ils n'ont pas eu la pleine image, l'image la plus complète, la plus vraie de ce que Dieu était vraiment. La création a aidé. La Shekhinah a aidé. La parole a aidé. Mais tout était incomplet jusqu'au verset 2 d'Hébreux, chapitre 1. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé. Et comment parlait-il cette fois? Par son quoi? Fils. Maintenant, Dieu crie. S'il murmure dans sa Shekhinah et qu'il parle dans l'Ancien Testament, il crie par son Fils. Vous ne pouvez pas le confondre. C'est indéniable. Il est Dieu. Et vous voyez tout ce que Dieu a manifesté en lui. Son jugement, sa justice, son amour, sa sagesse, son pouvoir, son omniscience. Tout est en lui quand nous le regardons marcher à travers le monde, en travaillant son œuvre, en vivant sa vie. La plénitude de Dieu est vue comme jamais. Elle n'a été vue en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi 2 Corinthiens 1, 20 fait une déclaration monumentale que vous devez vous rappeler et que vous devriez noter dans votre Bible. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, c'est-à-dire en Christ, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous, à la gloire de Dieu. Tout de la gloire de Dieu est oui et amen en Christ. Il devient la révélation complète de la gloire du Seigneur. Regardez le verset 2 pendant un moment. Il dit, dans ces derniers temps. Quels sont les derniers temps? C'est un terme qui fait référence à la période messianique. Les derniers temps ont commencé quand le Seigneur Jésus est venu. Il y a une longue période des derniers jours. Nous y sommes encore 2000 ans plus tard. Jean a dit, mes petits enfants, c'est la dernière fois. Le Nouveau Testament dit, il est apparu une fois à la fin des temps. La dernière fois, la fin des temps, les derniers jours ont commencé quand le Messie est venu. C'était les derniers jours de la révélation, car le canon, le testament, le texte était alors terminé. C'était la dernière fois que Dieu parlait jusqu'à ce qu'il prononce à nouveau sa voix dans son royaume. Et ainsi, après que Dieu eut donné le murmure et la voix audible, il a crié par son Fils, et le Nouveau Testament nous donne cette révélation. Il y a une note intéressante que je viens d'apporter à ceux d'entre vous qui regardent peut-être le texte de plus près. Il est dit dans le grec, « Il nous a parlé par fils ». Le mot « son » n'est pas là. « Par fils ». En d'autres termes, l'article est absent. Dans le passé, Il parlait par prophétie ou par l'intermédiaire de prophètes. Maintenant, il parle par le Fils. Et l'accent n'est donc pas tant sur la personne du Fils que sur la qualité d'être un Fils. En d'autres termes, être un Fils, c'est mieux que d'être un prophète. Il insiste sur la qualité ou la nature du terme. Il a élevé la qualité de son porte-parole. Et cela s'inscrit dans le texte des Hébreux, parce que le livre entier des Hébreux compare fondamentalement le Christ à tout le reste. Il est plus grand que les prophètes. Il est plus grand que les anges. Il est plus grand que les prêtres. Il est plus grand que Moïse, plus grand qu'Aaron, plus grand que Melchisédek, et ainsi de suite. Son alliance est une plus grande alliance. Et ainsi, il parle par Fils. Il parle par le Fils vivant, le Seigneur Jésus-Christ. Puis il continue au verset 2 et 3. Et c'est tout ce que nous allons examiner pour souligner certaines des caractéristiques de ce Fils. Mais je veux que vous remarquiez le verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire, qui est Jésus-Christ? Il est la gloire du Seigneur. C'est ce qu'il dit ici. Il est le rayonnement ineffable de Dieu. Il est l'éclat de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Jean 1,14 « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La phrase « étant l'éclat de sa gloire » est très simple. La luminosité est le mot « apogasma ». Cela signifie rayonnement, et envoyer de la lumière, ou envoyer de la clarté. C'est simplement dire qu'il reflète la lumière de Dieu, tout comme le rayonnement du soleil atteint la terre pour nous éclairer, nous réchauffer, nous donner la vie et la croissance. De même en Christ, nous sentons la chaleur et le rayonnement de la lumière glorieuse de Dieu touchant le cœur des hommes. La luminosité du soleil est de même nature que le soleil. Il est aussi vieux que le soleil. Et le soleil n'a jamais été sans luminosité. La luminosité du soleil ne peut pas être séparée du soleil, et pourtant, elle est distincte. Et ainsi, Christ est Dieu, et pourtant distincte. Il est Dieu, et pourtant, il est la manifestation de Dieu. Il est la gloire du Seigneur, qui crie la réalité de Dieu, qui n'était seulement murmuré et soufflé dans le passé. Il est le Fils de la justice, ressuscité avec la guérison dans ses faisceaux. L'illustration la plus graphique de ceci est trouvée dans un texte familier, en Matthieu 17. Cela dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré, ou transformé, devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et là, il montre sa gloire. Il est là sur cette montagne ce jour-là. Révélant sa gloire. Il voulait qu'ils sachent qui il était, et d'une nuée qui les entourait, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Et debout, il y avait Moïse et Élie, et c'était une réalité merveilleuse. Pourquoi cela se passait? Pour convaincre les disciples de tout doute de qui il était, la voix de Dieu, la clarté ineffable de la gloire de la Shekinah. Et puis la présence de Moïse et d'Élie. Pourquoi? Moïse pour la loi, Élie pour les prophètes, et Christ se tenait avec eux. Les deux plus grands porte-parole de Dieu de l'Ancien Testament. Ils devaient comprendre que Jésus était classé comme la voix de Dieu. Moïse et Élie qui avaient commencé les deux époques des miracles dans l'Ancien Testament, et maintenant Christ, pour commencer le troisième. Moïse et Élie qui ont tous deux quitté ce monde, enveloppé le mystère. La mort de Moïse, très unique et étrange. Élie est monté au ciel, vivant. Christ, qui est mort d'une mort unique, puis ressuscité, est monté au ciel. Les parallèles continuent encore et encore. Mais quand ils ont vu la gloire, ont entendu la voix de Dieu et ont vu la présence de Moïse et d'Élie, c'était une affirmation indubitable du fait que Jésus n'était pas seulement la voix de Dieu, mais qu'il était Dieu lui-même. C'est pourquoi, plus tard, dans le ministère de Pierre, comme il est écrit dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 16 à 19, il dit « Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. C'est devenu le point de leur confiance. Et ainsi, Jésus est la gloire de Dieu. » De retour à Hébreux 1, vous regardez le berceau et vous ne voyez pas qu'un bébé. Vous regardez le berceau et vous ne voyez pas juste un enfant, mais vous voyez la gloire de Dieu, la gloire du Seigneur dans la chair humaine. Chaque fois que Jésus accomplissait un miracle, chaque fois qu'il guérissait un boiteux, rendait la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, guérissait une voix muette, chaque fois qu'il pardonnait le péché, Dieu révélait sa gloire. Remarquez qu'il est dit aussi au verset 3 qu'il était « l'image expresse de sa personne ». C'est le mot « charactère », duquel nous obtenons le mot « caractère ». Il s'agit essentiellement d'un mot classique en grec, qui signifie un outil de gravure, une matrice, un timbre, un moule, ou une marque qui est faite par un sceau. Il a l'idée d'une copie, d'une image, ou d'une reproduction. Il dit que Christ est l'image de Dieu. Il est l'image expresse de Dieu. Il est le caractère de Dieu révélé. Il est la marque de Dieu sur la société humaine. Il est la marque de Dieu sur la chair humaine. Paul, dans 2 Corinthiens 4:4 et dans Colossiens 1:15, dit « Christ est l'image de Dieu » et il utilise un mot différent. Le mot est « eikone », ce qui signifie une reproduction exacte, une image exacte ou une copie précise. Donc, que ce soit « charactère » ou que ce soit « eikone », Jésus est la marque de Dieu, le sceau de Dieu, l'image de Dieu, la reproduction de Dieu, la copie précise de Dieu. Et puis je m'empresse d'ajouter que ces mots, même les meilleurs, sont loin de la réalité, de la vérité, car il est impossible d'exprimer qu'il est, en fait, l'essence même de Dieu, sans perdre quelque chose. Je pense que cela est mieux exprimé dans Colossiens 2:9, où Paul dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, la plus grande déclaration de la divinité du Christ. » Et puis, pour soutenir cela, l'auteur nous donne l'excellence du Christ. Premièrement, son héritage, verset 2, qu'il a établi héritier de toutes choses. La filiation exige l'héritage, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Psaume 2, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Le psaume 2 est l'endroit où le Père affirme le droit du Fils de gouverner. Colossiens 1, « Tout a été créé par lui et pour lui, tout revient finalement à lui. C'est de lui, par lui. » Et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Romains 11, 36. Dans Apocalypse 5, vous vous souvenez de la scène. Jean regarde le trône de Dieu, et il est temps de reprendre possession de la terre. Et il crie, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et il regarde partout dans le ciel, et partout ailleurs, mais personne n'est trouvé. Et finalement l'agneau arrive, le lion de la tribu de Juda, le Seigneur Jésus-Christ. Et il peut prendre le sceau. Pourquoi? Parce qu'il est l'héritier légitime de la terre. Il déroule le sceau, et à partir du chapitre 6, les sceaux sont brisés. Alors il reprend possession de la terre, pour établir son royaume. C'est lui qui a le droit de gouverner. Il est celui qui a reçu l'héritage par Dieu. Et la chose merveilleuse à réaliser, que celui qui est venu en humiliation et en condescendance héritera de toutes choses. Nous voyons donc tout d'abord son héritage. Deuxièmement, son initiation, la fin du verset 2, par lequel il a aussi créé le monde. Non seulement Christ le recevra à la fin, mais il est la source de son origine, au début. Il a tout initié à travers. Le mot « par » signifie « à travers »,« dia », »,« à travers ». Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, dit Jean 1, 3. Il peut créer, il a créé, et seul Dieu peut le faire. Puis-je signaler une chose très intéressante? Le mot pour monde là-bas, monde, n'est pas cosmos. Il ne s'agit pas seulement des mondes physiques. Cela va bien au-delà. Le mot est aion, et cela signifie les âges. Écoutez. Ce n'est pas qu'il a juste créé des mondes physiques et les choses physiques qui existent dans l'univers. C'est qu'il a créé les concepts dans lesquels les choses physiques peuvent exister. Cela vous prend un pas au-dessus du physique. Il a créé le temps, l'espace, la force, l'énergie et la matière. Il a créé ce dont la création physique est faite. Il a tout fait. Nous voyons donc son héritage, son initiation. Troisièmement, nous voyons son influence dans le verset 3. Il dit ceci, « Et soutenant toute chose par sa parole puissante. » C'est son influence. Il tient le tout ensemble. C'est son influence. C'est lui qui fait bouger l'atome dans sa propre orbite, le bloc de construction de toute chose. C'est son pouvoir. En passant, le verbe est lié au soutien de l'action continue. Il tient continuellement toutes choses ensemble. Cet univers se désintégrerait et volerait en morceaux s'il n'y avait pas son pouvoir de défense. Savez-vous que si la rotation de la Terre devait ralentir un peu, nous gèlerions et brûlerions alternativement? Ou saviez-vous que le Soleil a une température de surface de 12 000 degrés Fahrenheit? Et s'il était plus ou moins près, nous gèlerions ou brûlerions? Savez-vous que notre globe est incliné à exactement 23 degrés? Et si ce n'était pas à cet angle précis, les vapeurs de l'océan se déplaceraient vers le nord et le sud et entasseraient des continents de glace massifs. Saviez-vous que si la Lune ne restait pas à sa distance exacte de la Terre, les marées de l'océan inonderaient la Terre 2 fois par jour? Savez-vous que si l'océan glissait à quelques mètres de profondeur de plus, le dioxyde de carbone et l'oxygène de l'atmosphère terrestre seraient complètement absorbés et aucune vie végétale ne pourrait exister? Saviez-vous que si l'atmosphère ne restait pas constamment dans la Terre, mais qu'elle disparaissait, des millions de météores inoffensifs brûleraient la Terre, dans un barrage de bombardements qui nous dévasterait tous? Qui détient l'équilibre délicat? Qui permet que cela continue? Le Fils le fait, la gloire du Seigneur. J'y pense souvent. Quand il traversait le monde dans son corps humain, et qu'il traversait toutes les choses qu'un homme traversait, en même temps, il défendait l'univers entier. Nous voyons donc son héritage, son initiation, son influence. Quatrièmement, nous voyons son intervention dans le verset 3. J'aime beaucoup cette idée. L'empreinte de sa personne, je le répète, l'empreinte de sa personne a fait la purification des péchés. Saviez-vous qu'il l'a fait lui-même, personnellement? Vous devez le savoir. Il l'a fait lui-même. Par lui-même, il a pardonné nos péchés. Maintenant, bien-aimé, c'est une puissance. Par lui-même. C'est un travail plus grand que la création. Un travail plus grand que la providence. Le maintien. Ce travail de pardon. Il a permis la purification. Il nous a lavés de nos péchés. Et cela devient le grand thème retentissant du livre des Hébreux à mesure que vous avancez. Il dit en Hébreux 7:27 qu'il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Il a pardonné nos péchés. C'était son intention dans le désastre humain. Et pendant un bref instant, la gloire a disparu. Pendant un bref instant, la Shekhinah est devenue noire. Pendant un bref instant, la luminosité est devenue obscure. Et l'obscurité même, à laquelle Jésus avait résisté, l'a engloutie. Mais il l'a fait pour nous. Et cela ne s'est pas terminé là. Nous voyons son héritage, son initiation, son influence, son intervention, enfin, son installation. Quand il eut fini, il s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Majesté est simplement un nom pour Dieu. Il est la majesté divine. Sa main droite est la place d'honneur, le lieu de bénédiction, le lieu du pouvoir. Il s'est assis. Pourquoi s'est-il assis? Il avait fini. Vous voulez savoir quelque chose d'intéressant? Dans le temple et dans le tabernacle, il n'y avait pas de siège. Vous lisez la description du tabernacle, vous lisez la description du temple. Il n'y avait aucun siège, nulle part. Pourquoi? Parce qu'un prêtre n'a jamais fini. Alors il ne s'est jamais assis, un sacrifice par millions. Et ils ne se sont jamais assis parce que ce n'était jamais un travail fini. Jésus a fait un sacrifice, et quand c'était fini, il s'est assis. Il s'est assis. C'était fini. Il n'y avait plus rien à faire. Il a fini et s'est assis. Hébreux 10:12. Quel grand verset. Lui, c'est-à-dire Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Bien-aimé, c'est le message de Noël. Dieu est venu dans le monde et nous nous concentrons sur sa divinité. C'est Dieu. Pourquoi se tient-il à la droite? 4 raisons. Tout d'abord, la droite était une place d'honneur. Philippiens 2 dit que « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » La droite est une place d'honneur. Il s'est assis là parce qu'il doit être honoré. Deuxièmement, c'est le lieu de la décision. 1 Pierre 3:22 dit que Dieu l'a élevé à sa droite et lui a soumis des anges, des autorités et des pouvoirs. C'est la place d'honneur. C'est le lieu où se met celui qui règne. Troisièmement, c'est le lieu de repos. Il s'est assis parce qu'il avait fini. Quatrièmement, c'est le lieu d'intercession. Il est à la droite de Dieu. Romains 8, 34 nous dit à merveille. Il intercède pour nous. Il a donc pris sa place à la droite de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ceci. Le prophète a dit que la gloire du Seigneur sera révélée. L'auteur des Hébreux dit que le Fils est l'éclat de sa gloire. Le message de Noël est que Dieu est venu dans le monde, dans toute sa gloire, et que ce qui n'était qu'un murmure ou une voix audible devient un cri. Et un jour, dans le futur, en lisant le livre de l'Apocalypse, quand il reviendra dans sa gloire éclatante, ce que, j'aime cela, Jésus appelle la grande gloire. Quand il revient dans la seconde gloire, la Bible dit que le cri sera encore plus fort, de sorte que chaque voix dans l'univers pleurera, criera et chantera ses louanges. Qu'est-ce que cela nous dit? Laissez-moi regarder avec vous 2 Corinthiens 3, et nous allons terminer. Verset 10. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Maintenant écoutez ce que signifie ce verset. L'Ancien Testament, les apparitions de la Shekhinah, le texte de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance était glorieux. C'est vrai. Même ce qui a été rendu glorieux se réfère à l'Ancien Testament, à l'Ancienne Économie, à l'Ancienne Alliance, aux apparitions de la Shekhinah. Il a été rendu glorieux, mais il n'a pas de gloire à cet égard, à cause de la gloire qui excelle. En d'autres termes, la nouvelle révélation de la gloire dans le Christ incarné et la nouvelle alliance à son égard sont tellement plus glorieuses que l'ancienne, qui ne semble pas glorieuse du tout. Il n'a pas de gloire comparée à la gloire qui excelle. Une belle pensée. Ainsi, la révélation de la gloire dans le Nouveau Testament dépasse de loin tout ce qui se passait sous l'ancienne alliance. Et c'est pourquoi nous disons que Dieu crie en la personne de Christ. Mais que nous dit-il? Verset 18. Mais nous tous, avec un visage dévoilé. C'est-à-dire que le voile est enlevé. Les choses mystérieuses, gênantes, étranges. Nous ne sommes plus comme Ézéchiel. C'est parti. Le voile est tombé. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et qui est-ce? C'est le Christ. Et comme nous le contemplons, nous le regardons. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. En d'autres termes, nous devenons littéralement comme lui, en le contemplant. Maintenant, nous tous, croyants, nous sommes dans ce processus. Nous regardons sa gloire et sommes transformés en son image dans le processus. Vous vous souvenez de l'histoire du vilain petit canard? J'en suis sûr. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Il était plus maladroit et moins attrayant que les petits canetons avec lesquels il avait grandi, et il se moquait de ses différences. Fuyant leurs abus, il s'est réfugié dans une maison où les animaux de compagnie étaient un poulet et un chat. Il a été rejeté là aussi, car il ne pouvait pas pondre comme une poule, et il ne pouvait pas ronronner comme un chaton. « Vous ne me comprenez pas, leur dit-il, mais il ne fut traité qu'avec mépris. Puis un jour, il vit des cygnes gracieux et élégants, les plus beaux oiseaux qu'il n'ait jamais vus, et un sentiment étrange l'envahit. Il a fait des sauts périllés dans l'eau, il étira son cou en essayant de suivre leur vol, et il poussa un cri si fort que cela l'effraya. Quand il les perdit enfin de vue, il plongea jusqu'au fond de l'eau, et, quand il est remonté, il était complètement affolé. Il n'avait aucune idée de comment appeler ces oiseaux, ou de l'endroit où ils allaient. Il savait seulement qu'il les aimait, car il n'avait jamais aimé qui que ce soit auparavant. Un autre hiver est venu, avec toutes ses difficultés, et enfin le printemps est revenu. La glace des étangs a fondu. Pendant que le vilain petit canard nageait, il revit deux de ses beaux oiseaux. Ils ont nagé droit vers lui, et plus ils se rapprochaient, plus il était effrayé. Et puis, quand une telle beauté était devant lui, il inclina la tête, avec humilité, et se couvrit le visage de ses ailes. Cependant, lorsqu'il a baissé la tête, il a vu son propre reflet dans l'eau pour la toute première fois et, stupéfait, il a vu que lui aussi était un cygne. Détachant lentement ses ailes de son visage, il leva la tête. Il ne l'a pas levée fièrement et haut comme ferait une autruche, mais humblement comme un cygne, légèrement penché dans une expression de gratitude. Puis il a nagé vers ses amis cygnes. Peut-être pouvons-nous y voir une analogie. Votre expérience est peut-être similaire à celle-ci. Pensez avec moi. Votre premier regard sur Christ dans la foi, peut-être comme le vilain petit canard qui a vu les cygnes. Vous avez un sentiment irrésistible de votre propre laideur, et pourtant, Il y a une irrésistibilité dans le Christ qui bouleverse votre cœur. Nous savons pourquoi le vilain petit canard était hors de lui quand il a vu les signes. Il a répondu du fond de son être, car il était un signe, et c'est ce pourquoi il était fait. Et de même, nous pouvons répondre à Christ. Au fond de nous-mêmes, nous ne savons pas vraiment pourquoi nous réagissons de cette façon, mais c'est parce que c'est ce que nous étions censés être. Et puis un jour, alors que nous sommes confrontés à l'humilité dans notre laideur, alors que nous regardons dans le miroir, nous voyons que nous sommes en train de devenir cette très belle chose que nous aspirons à devenir. Et avec humilité, dans notre marche et gratitude dans nos cœurs, nous vivons nos vies devant Dieu. Écoutez, Dieu veut vous transformer en sa propre image, d'un niveau de gloire à un autre. Il est stupéfiant pour moi de percevoir que le Seigneur Jésus-Christ est la gloire du Seigneur qui nous a été révélée. Il est plus stupéfiant de révéler qu'il est la gloire du Seigneur révélée pour nous. Il est très stupéfiant de comprendre qu'il est la gloire de Dieu révélée en nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. La plupart des personnes ne comprennent pas le vrai sens de Noël. Ils ne savent pas qui est Jésus vraiment. Ils ne voient pas la gloire du Seigneur. J'espère que ce n'est pas votre cas. J'espère que vous vous focalisez sur lui pour que vous puissiez devenir ce pour quoi vous avez été créé, une réflexion de cette même gloire.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.